RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Merci de me recevoir Laurent. Nous sommes ici au domaine donc Laurent et Rita Cox, ici à Rémiche. Avec ta fille Corinne désormais aux commandes, hein, c'est ça hein?
Oui, ça c'est exact. On a commencé déjà après mes études à l'école. Et après, on est avancé. Et aujourd'hui, on a un petit grand domaine. Et maintenant, on a la chance que notre fille Corinne a repris le domaine.
Laurent, on est là pour fêter un anniversaire aujourd'hui. C'est le 100e épisode de La Route des Vins du Luxembourg, ce podcast sur RTL qu'on consacre intégralement à l'actualité des vignerons et du vin ici au Luxembourg. Et on s'était dit que ce serait bien d'avoir un produit de fête pour cet anniversaire. Et ce produit de fête, évidemment, bah c'est le crémant. Ce produit qui est dégusté de plus en plus hein, aussi ici au Luxembourg, qui est vraiment devenu le fleuron de ce pays. Toi, Laurent, tu as été le premier vigneron indépendant à concevoir du crémant ici au Luxembourg.
Oui, ça c'est exact et je félicite aussi déjà l'auteur ou le programme du 100e podcast sur le vin luxembourgeois et ça nous aussi c'est très positif pour notre région. Et par contre, on était personnellement le premier aussi à se lancer dans cette production du crémant au Luxembourg. Mais il faut aussi savoir, on a déjà une ancienneté de faire du vin mousseux ou à base de la méthode champenoise au Luxembourg, déjà presque 100 ans. Mais par contre, ce n'était pas encore très spécifié. Ça veut dire que le cahier de charge n'était pas encore si 100% que maintenant avec le crémant de Luxembourg. Car il faudrait un cahier de charge spécifique pour le crémant de Luxembourg. Et ça commence déjà au pressoir. Ça veut dire seulement des raisins entiers vendanger avec la main, il vient sur le pressoir. Et là, ça commence déjà l'idée, qu'est-ce qu'on fait avec les raisins? Ça commence déjà dans les vignes, il doit être pas trop mûr, mais il doit être mûr. Et il faut aussi aujourd'hui attention à le degré d'alcool et à l'acidité. Et si on a un vin trop alcoolisé, déjà au début, ça devient jamais un bon crémant. Alors là, il faut déjà respecter et aussi il faut voir maintenant avec le changement climatique qu'on a maintenant à 100% dedans. On peut dire que notre région, elle profite un peu de cette situation. Mais par contre, si j'avais commencé au crémant il y a maintenant 35 ans, là, on n'avait pas le problème avec le suralcool. Mais aujourd'hui, tellement, on a déjà presque trop d'alcool pour faire la deuxième mise en marche. Mise en circuit, ça veut dire pour la deuxième fermentation en bouteille, car il ne faudrait pas plus que 11,5.
Est-ce que toi, tu utilises vraiment tous les types de cépages pour faire tes créments ou ça va dépendre des années?
Ça dépend des années, mais en théorie, on a aussi la chance avec presque tous les cépages qu'on a à Luxembourg. Ils sont presque tous autorisés, sauf le Gewürztraminer. Bon, il y a aussi des gens qui s'expérimentent avec ça, mais c'est pas directement utile de prendre un Gewürz pour faire le crémant. Mais par contre, dans le temps, au début, c'était l'Alpine et le Rivaner étaient aussi dans le programme. Là, les gens se disent « Oh, ça c'est un peu négatif ». Mais par contre, aujourd'hui, à l'évolution avec le temps, le Rivaner et l'Alpine deviennent aussi plus mûrs que dans le temps. Alors, c'est aussi des très bons cépages aussi pour faire du crémant, car aussi on a la fleur blanche, pratiquement, ça c'est à 80% du Rivaner dedans. Et on avait aussi une faire à base d'un cépage autochtone, l'Alpling. Mais par contre, aujourd'hui, on n'a plus assez d'Alpling pour faire un monocépage en bouteille pour les crémants. C'est un peu dommage, mais par contre, il y a aussi des autres cépages qui viendra aussi sur le marché. Maintenant, aujourd'hui, on a une dernière cuvée qui est sortie. C'est la cuvée d'Audace et c'est à base du Cabernet Blanc, un cépage un peu interspécifique. Et ça donne une autre impression de crémant.
Donc à la suite de ça, il y a évidemment la récolte, hein, une récolte donc qui est très avisée, comme on le disait, il ne faut pas un raisin qui soit trop mûr non plus. Qu'est-ce qui va changer au pressoir par rapport à la conception d'un vin tranquille? C'est là où vraiment on commence à prendre la direction.
Oui, pressoir, ça veut dire les raisins rentrent intacts dans le pressoir. Et le premier jus qui sort, il est un peu trop, pas méchant, mais il n'est pas 100% propre. Après, ça commence la cuvée, ça veut dire ça, c'est la tête cuvée, ça, du pressoir, ça sent. Et ça, presque la moitié du jus qui sort. Après, on a une première taille, deuxième taille et un rebêche. Et chaque partie, on va vinifier à part. Il faut attendre la fermentation est finie. Et après le collage ou la filtration, on fait des assemblages suivant le type qu'on a besoin. Et chaque taille ou chaque litre qui sort du pressoir, il faut seulement faire attention à le séparer 100%.
Il se passe combien de temps entre la récolte et l'assemblage à peu près?
Oui, ça dépend de l'année. On ne peut pas embouteiller le même millésime des vendanges. Ça veut dire qu'on recommence en janvier après la récolte. Et là, on peut faire des assemblages. Et après, en fonction des stocks qu'on a, aujourd'hui, il faut le mettre sur latte, ça veut dire au moins 12 mois. Dans le temps, c'était 9 mois, mais ça, on a mis en 12 mois. C'est aussi qualitativement mieux. Et par contre, aussi pour les millésimés, il faut attendre 2 ans avant la commercialisation.
La difficulté aussi pour un vigneron, c'est de devoir entreposer pendant 12 mois. Ça demande une grosse capacité de stockage. J'imagine que ça, ce n'est pas donné non plus à tous les vignerons de pouvoir se permettre un tel luxe de trésorerie aussi.
Ah oui, ça c'est sûr, mais tout de même, chacun vigneron a commencé aussi il y a maintenant une vingtaine d'années. Mais tout de même, ils se sont dit avec les créments. Ça, il faut avoir. Et aussi, il y a beaucoup des entrepôts qui sont créés seulement à cause du crément. Ça, c'est sûr, ça coûte indirectement de l'argent, mais c'est aussi directement une plus-value pour le vigneron et aussi pour la région.
Cette phase d'assemblage, c'est vraiment tous les ans où on reconcocte des assemblages originaux, où on reprend un peu des assemblages qu'on a fait les années précédentes. On repart vraiment de zéro sur ce point chaque année?
Pas directement comme notre plus grande cuvée d'apéritif. Ça, on change pas trop. Et c'est aussi un peu de vin de réserve dedans. Ça, c'est sûr, pour avoir à peu près aussi le même type de qualité pour la clientèle.
Donc on cherche une stabilité vraiment d'une année à l'autre aussi.
Oui,
hein.
Et ça c'est déjà comme une recette des autres régions, on ne peut pas dire le nom, mais par contre ça c'est déjà une valeur sûre. Mais par contre après avec les monocépages, comme un cuvée Riesling ou un cuvée blanc de blanc, ou cuvée rosé, là c'est aussi des cahiers des charges, on a des formules pour aussi respecter toujours ce qu'ils ont mis sur l'étiquette, ça doit correspondre aussi au goût de la clientèle.
Il faut rappeler que la méthode de fabrication en fait, du crément est donc ce qu'on appelle la méthode champenoise, donc on parle de la même chose.
Oui, ça c'est la même chose, mais seulement dans le temps on pouvait mettre sur l'étiquette méthode champenoise, et maintenant ça c'est plus autorisé, et c'est à cause de ça, c'est aussi venu la nomination crément de Luxembourg, ça veut dire qu'il y a seulement 100% du raisin de la région qui est dans l'appellation luxembourgeoise qui ont le droit de vinifier en crément.
Donc aujourd'hui, on est là aussi pour assister à une phase qui est très importante, c'est la phase d'embouteillage. Donc je te propose qu'on aille justement dans la cave pour voir un petit peu comment ça se déroule.
Oui, il faut seulement ouvrir la porte.
Eh bien allons-y, c'est parti. Voilà, donc on arrive au cœur du sujet avec une machine déjà qui est relativement impressionnante. Hein.
Il y avait une ancienne machine et là on n'avait pas encore pour nettoyage des bouteilles neuves. Et maintenant on est en conforme avec la législation. C'est une nouvelle machine pour laver les bouteilles en amont à l'intérieur et après sera embouteillé avec l'assemblage avec les levures. Avec le nouveau sucre pour faire la méthode traditionnelle.
Voilà, donc là en fait ce qu'on voit c'est que donc on a une palette hein, avec donc tout un tas de bouteilles vides. Ces bouteilles vides, on les trouve partout assez facilement, c'est acheté en Europe?
Oui, c'est pratiquement des bouteilles européennes. Ils sont encore fabriqués en France et on a aussi la garantie qu'ils sont 100% conformes à les mesures qu'on a besoin. Car après aussi ils sont certifiés être. Le couleux doit être 100%, sinon on a pris la perte pendant le stockage dans la cuve.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en fait tout se fait vraiment en millimètres. Hein. Vous faites des réglages, c'est-à-dire que vous étalonnez un petit peu la machine en fonction de la taille du goulot. Et il peut arriver une catastrophe si finalement on est sur une bouteille qui n'est pas conforme ou un mauvais réglage.
Oui, ça arrive parfois, mais ça reste dans des normes. On a une bouteille par mille, pas plus, qui casse. Et aussi, entre-temps, aussi, c'est peut-être aussi mal fabriqué à la fabrique, mais on n'est pas jamais 100% sûr. Mais on peut dire qu'on est à 99%.
Donc là, on va s'approcher hein, justement de la machine. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait donc les bouteilles vides qu'on fait entrer dans la chaîne. Oui. Et donc, les bouteilles sont lavées hein, déjà. Hein.
Oui, oui, les machines, les bouteilles qui arrivent de la firme, en théorie, ils sont stériles et propres. Car pour fabriquer une bouteille, il faut de la chaleur. Alors ça, c'est presque 1100 degrés. Alors seulement pendant le transport ou le stockage, ça peut arriver qu'il y a de la poussière dedans. C'est à cause de ça, on va les laver à l'intérieur avec de l'eau.
Donc là, on est positionné sur la chaîne. Donc là, les bouteilles sont lavées.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Et la deuxième machine, ça c'est l'embouteilleur allemand. Ça rentre le vin composé de vin de masse avec les nouvelles levures. Et aussi, il faut du sucre pour faire la deuxième fermentation. Et il faut aussi que le sucre doit aussi être pas plus que 24 grammes par litre. Et ça, c'est aussi très réglementé. Sinon, on a après trop de pression sur la bouteille. Et sinon, on a aussi trop de casse. Et par contre, aussi, le goût du produit allemand devient trop gazeux. Alors, les gens ils disent, oh, ça, c'est, on ne sent pas directement le bouquet, mais peut-être seulement le gaz carbonique.
D'accord. Donc là, ça défile. Hein. Ouais. On a quand même l'impression que c'est une bouteille par seconde. Hein. Je ne sais pas si on connaît
non,
les chiffres. Mais
oui,
les
chiffres, oui, ici, on parle maintenant, la machine est à 1800 bouteilles par heure.
Ah oui, ouais, assez impressionnant. Hein. Ouais. On n'a pas idée du coût d'une telle machine, mais j'imagine que c'est en plusieurs...
Non, ça correspond à une très belle voiture, mais c'est notre outil de production. Je pense que c'est mieux avoir de bons produits pour travailler et pas encore une Ferrari dans la cour.
Bien sûr. et une durée de vie aussi qui est non négligeable, hein, car rappelons-le, l'objectif aussi dans un domaine, c'est de pouvoir transmettre et
oui.
de pouvoir
mais
amortir. Hein.
Oui, oui, mais bon, les machines maintenant sont nouveaux et peut-être Corinne a la chance d'avoir un nouvel outil jusqu'à sa fin de carrière. Car moi, j'ai aussi commencé il y a une quarantaine d'années avec aussi des machines. Mais aujourd'hui, ils sont plus présentes car c'est leur carrière de vie, c'était fini.
Alors, tous les vignerons luxembourgeois ne sont pas équipés d'un tel dispositif. Est-ce qu'il peut arriver que des vignerons fassent le choix de venir avec leur cuvée, leur assemblage et venir embouteiller ici?
Oui, dans le temps, c'était faisable. C'était aussi, on avait idée donnée à l'autre vigneron de faire la passation ici. Mais aujourd'hui, c'est une autre grande cave au Luxembourg qui a aussi des partenariats avec des petits vignerons qui, eux, alors, ils apportent leur vin de base et l'autre cave, elle fait la passation jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'à l'étiquetage.
Donc là, il se passe à peu près, il y a 5 mètres à peu près entre le moment où la bouteille est remplie. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que on met le bouchon, c'est ça?
Oui.
Enfin, c'est pas le bouchon, hein, réellement.
Oui,
c'est pas
directement un bouchon, mais c'est un bouchon spécifique pour tenir le gaz dans la bouteille et tenir aussi la pression. Et ça nous donne la garantie de garder ces produits jusqu'à 5-10 ans dans la bouteille.
D'accord. Donc, ce qu'on appelle des capsules couronnes.
Ouais.
Donc là, ça, le parcours continue. Hein, on voit qu'on traverse les différentes étapes.
Oui.
Et là, ça y est, c'est déjà presque terminé. Hein, puisqu'on,
oui, la bouteille est remplie. Et ouais. Maintenant, il y a un collaborateur qui met les bouteilles dans les boxes.
Elles sont couchées. Hein, elles sont,
oui,
pas debout, hein.
Ils sont couchées et ils restent dans ces boxes jusqu'à... La prochaine étape, ça veut dire le remuage. Et les boxes là sont spécifiques directement pour faire déjà le remuage dans les boxes allemandes. On n'a plus besoin de le remettre dans une autre box.
Oui, parce que là on a quasiment un mètre cube de bouteilles. Donc oui. Bon, on n'a pas une calculatrice dans la tête, mais ça représente quand même quelques centaines de bouteilles peut-être.
Non, c'est très énorme et chaque bouteille a son casier.
D'accord.
Et ça rentre maintenant 504 bouteilles.
Et ces 504 bouteilles vont se retourner ensemble?
Ensemble dans une machine pour remuage qu'on va maintenant regarder.
D'accord, on y va.
Dans le temps, c'était avec la main, mais aujourd'hui, personne ne ça fait encore avec la main. C'est plutôt touristique. Mais par contre, on a maintenant une machine à double position. Ça veut dire qu'elle peut remuer deux palettes. Pratiquement 1000 bouteilles par semaine.
Pour quelle raison est-ce qu'on remue ce crément ?
Remue, ça veut dire car on a mis, encore une fois, de la levure dans le vin. Et après, si le levain n'a plus de sucre pour manger, alors il meurt. Et aussi l'alcool va augmenter dans la bouteille, mais seulement maximum 1,5 degré d'alcool. Et après, elle devient morte. Mais après, il faut faire un petit dépôt pour la sortir. Et c'est à cause de ça, si on a une deuxième fermentation, on a du gaz carbonique qui est dans la bouteille bloqué. Alors dès qu'on va ouvrir la bouteille, il faut faire seulement attention, c'est au lieu de dégorgement. Alors on va sortir les anciennes levures. Et après, on a le crément brut. Et après, on fait les plusieurs dosages. Ça veut dire sans sucre, extra brut ou brut. Ou demi-sec, mais pour le demi-sec, on n'a pratiquement pas de la clientèle.
Et ce processus de remuage, il dure combien de temps?
Mais un cycle, ça dure 5 jours.
5 jours,
là, ça veut dire chaque semaine, on change.
D'accord. Et donc, à l'issue de ce remuage, on passe encore dans une autre zone de fabrication. Alors, on passe une porte. Ah, tout de suite, on sent la fraîcheur ici.
Oui,
hein,
oui. C'est... Bon, maintenant, on est ici dans le stockage. Car il faut avoir de la place pour tout stocker ces bouteilles. Et c'est d'un stockage à peu près, je n'ai pas encore jamais compté, mais il y a au moins pratiquement une récolte qui est sur stock. Ça veut dire...
Ah, il y a une récolte, ouais. C'est impressionnant ça.
Oui,
quand même,
c'est hein. D'office, car si la prochaine récolte... Aujourd'hui, on est en train d'embouteiller une cuvée. Mais ça sera seulement en vente au moins 15 mois ou 24 mois après.
15 mois plus tard.
C'est à cause de ça, on a pratiquement un et demi récolte ou besoin de vente qui est sur stock.
Donc quand on sort du remuage, le crément, il n'est pas terminé. Hein. C'est-à-dire qu'il est encore déjà avec sa capsule ou pas? Ou alors on a déjà mis le bouchon définitif?
Non. Maintenant, tu vois ici, il y a des nouveaux palettes qui sont les bouteilles sur la tête. Ça veut dire qu'ils sont prêts à dégorger seulement selon le besoin du marché. Et alors on laisse toujours, le mieux sera... Toujours sur l'atte, jusqu'à ce qu'on a besoin pour le vendre. Car ça, c'est le principe aussi de la méthode champenoise. Ça veut dire, si on laisse plus de temps sur la latte, là, il y a aussi des effets positifs pour le produit allemand.
Alors, est-ce qu'on doit considérer qu'une fois que le vin a été dégorgé et qu'on y a mis le bouchon définitif, est-ce que c'est à cet instant que l'évolution se bloque, ou alors on a quand même une évolution qui continue à se faire au niveau...
Il y a une évolution aussi après le dégorgement, mais un peu plus vite que normal. Mais par contre, aujourd'hui, c'est aussi Si les gens achètent un vin mousseux, un crémant ou un champagne, ils se disent qu'ils sont toujours prêts à boire. Et ça, c'est sûr. Mais par contre, il faut faire seulement attention, avant de mettre sur le marché, que le produit elle-même elle n'est pas encore trop levurienne ou trop jeune.
On s'interroge souvent sur le potentiel de vieillissement d'un crémant. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que c'est même recommandé d'essayer de le faire vieillir ? Quel est ton point de vue ?
Oui, ça c'est... Mais ça, il faut faire seulement aussi attention. Ça veut dire déjà à la base, on doit dire ce crémant, on va le mettre sur le marché seulement dans 5 ou 10 ans. Car ça, c'est déjà... On ne peut pas dire maintenant cette cuvée, on peut le garder jusqu'à la fin. Et l'inverse, un autre qui n'est pas encore prêt, déjà mettre dans le marché. Et aujourd'hui, on a aussi l'expérience avec un cahier spécifique pour une longue durée sur la latte. Ça veut dire qu'on a maintenant 3 produits. Ça, c'est le Minusiner, ça, c'est le cuvée privilège, qui sont pratiquement plus que 10 ans sur latte. Et bon, ça, c'est seulement quelques palettes, ce ne sont pas tous les domaines, sinon ça coûte énormément d'engagement financier. Mais par contre, là, on a des beaux résultats avec ces produits elles-mêmes. Et aussi, ces produits deviennent un peu plus chers, c'est normal. Et aussi, ça, le prix limite déjà la limite de la quantité qu'on peut faire. Car aussi, aujourd'hui, un bon crémant, ça c'est entre 8 jusqu'à 15 euros. Et les autres deviennent déjà jusqu'à 35. Et si on a plus de demandes sur ces produits-là, on peut aussi se permettre de plus le produire.
Le procédé de fabrication est exactement le même. Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence en réalité ?
Si on prend seulement la tête cuvée, on va les lasser un peu dans les barriques, on donne un peu plus de bois. On prend seulement les meilleurs cépages qui se tiennent aussi à la longueur. Ça, c'est déjà la différence en prix. Et par contre, si on a des cépages qui ont dit ça, c'est pour un circuit plus court, alors ça fait aussi la différence des prix. Après, c'est aussi l'image de la marque du producteur, aussi l'image de la région qui se peut permettre de faire un peu plus d'évolution sur les prix. Et c'est aussi l'engagement de la clientèle en général, le respect de la clientèle envers un prix tel aussi sur le crément. Là, on peut aussi dire que c'est un marché libéral. Chacun peut fixer son prix lui-même. C'est toujours un jeu entre la consommation, le produit elle-même et aussi les producteurs.
Alors, pour terminer et refermer ce podcast, le positionnement du crémant luxembourgeois devient quand même excellent. On le voit à échelle internationale. Ce sont des créments qui concourent justement lors d'événements et de sélections qui vont bien au-delà des frontières luxembourgeoises. Comment est-ce que tu perçois, toi, ce gain en qualité, ce véritable rebond qui a eu lieu au fur et à mesure des années ? Tu penses vraiment qu'aujourd'hui, le fait que le crémant soit le fleuron du pays est vraiment quelque chose de justifié ? C'est une fierté pour vous ?
Ah oui, c'est une grande fierté aussi aujourd'hui avec ma fille Corinne. Elle est maintenant plus douée à faire de l'exportation. Et aujourd'hui, vous trouverez du crémant. On a un nouveau client en Autriche. On a déjà des expériences en France. Et aussi en plus en Angleterre et en Amérique. Ça part du crémant de notre production envers de la clientèle. Et en général, internationalement, maintenant, le vin rouge, c'est un peu plus difficile à vendre. Mais par contre, les vins un peu gazeux, aussi avec un peu de gaz carbonique dedans, c'est aussi la méthode crémant qu'on a plus. Et là, en général, on peut dire qu'il y a une plus forte demande. Mais il faut toujours faire l'attention à la base du crémant. Ça veut dire que ça commence dans la vigne, le pressoir. Le pressoir, c'est où se joue la qualité du produit final.
Un produit final qu'on ne se lasse pas de consommer ici au Grand-Duché. Merci beaucoup Laurent Cox de nous avoir accueillis ici dans le cadre de ce 100e épisode de la Route des Vins du Luxembourg. C'est un produit de fête, c'est un produit noble et on admire justement cette qualité qui chaque année est au rendez-vous. c'est l'artisanat aussi. Hein. On est ici dans un petit domaine, dans un terroir qui est minuscule à l'échelle internationale. C'est quand même assez incroyable. Qui aurait dit dans les années 90, lors de tes premières cuvées de Crémant, qu'on en arriverait là?
Oui, et on peut dire aussi, si chaque producteur respecte le cahier de charges explicite pour faire du Crémant, on est sur une bonne voie pour progresser aussi, et aussi internationalement. Je pense demain ou après-demain, le Crémant sera une belle route devant.
À bientôt, Laurent Cox.
Merci.
Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.